France Musique. Les grands entretiens, Benjamin François.
Bonsoir, je m'appelle Rinaldo Alessandrini, je suis musicien, je m'occupe de musique baroque, mais pas seulement de musique baroque.
Rinaldo Alessandrini, le concerto italiano à 35 ans, 1984-2019, ouais. Ça fait pile poil 35 déjà. Venons-en à sa fondation. Quand vous êtes-vous dit, ça y est, j'ai assez travaillé avec les autres et pour les autres, maintenant je veux rouler pour ma propre boutique?
Simplement se retrouver avec des amis et il y avait des occasions qui arrivaient pour jouer ensemble. Et voilà. On a dû choisir un nom pour l'ensemble, pour éviter de se présenter comme voilà, lui. Ça a commencé comme ça. Alors, même pour l'ensemble, je ne crois pas qu'il y a 35 années, j'ai dit, ah bon, on démarre la carrière de concerto italiano, absolument pas. Et donc, ça arrivait un peu lentement.
Au départ, l'ensemble était d'ailleurs plutôt instrumental.
Mais il y avait... Non,
vous dirigez du clavier, de toute façon.
Moi, je dirigeais du clavier. De toute façon, on abordait et de la musique instrumentale et de la musique vocale.
Vous avez dit à ce sujet votre désir à l'époque déjà de ramener Monteverdi en Italie. J'entends un peu en sous-texte ne pas le laisser simplement aux Anglais, qu'il le faisait de manière tout à fait différente. Vous pouvez détailler un tout petit peu ça, ce projet Monteverdi qui est vraiment consubstantiel du concerto italiano?
Alors, comme je dis avant, le projet Monteverdi est né avec mon concerto italiano d'une manière ou l'autre. Et Monteverdi, en particulier, c'était quelqu'un toujours présent, disons, d'une manière ou l'autre dans ma vie. Moi, je ne veux pas dire que c'était mon compagnon de ma vie, machin, c'est pas ça. Mais le fait de retrouver une musique très connue dans les années, donc d'avoir la possibilité de revenir aux mêmes partitions, être d'une manière ou l'autre sollicité par d'autres chanteurs, d'autres occasions, des idées différentes. Ça m'a beaucoup aidé. Et donc, c'était ma gymnastique mentale. Et disons, probablement, c'est le compositeur fétiche un peu de concerto italiano. Oui, absolument. Et n'a jamais arrêté de l'être. Après, bon, Vivaldi, ça va, mais... Bon, et à côté, il y a Bach, évidemment, mais c'est plutôt ça, c'est une histoire un peu plus personnelle.
Dans quel ordre aborder l'œuvre de Monteverdi? Est-il plus commode de l'aborder d'abord par ses madrigaux, passer ensuite au répertoire de l'opéra? Quel est un petit peu le paysage dans l'ordre logique?
Ça qui m'est arrivé, c'était un travail déjà suffisamment profond sur les madrigaux. Et les premiers opéras sur scène qui sont arrivés fin des années 90, Couronnement de Poppée, après Orfeo et après Ulysse. Il fallait aussi trouver un peu de moyens économiques qui pouvaient nous permettre d'aborder Vêpres, donc on a dû un peu attendre. Mais voilà, c'est un peu l'histoire. D'abord le madrigal, oui.
Alors justement, dans ces madrigaux, tous ces livres ont été maintenant enregistrés. Quel est
Presque.
pour... Presque, oui,
Presque,
presque. Mais
oui.
vous allez finir.
J'espère, oui. Bientôt, oui.
Quel est pour vous l'apport principal du Concerto Italiano dans cette redécouverte de Monteverdi?
Un travail qui passe par, disons, mécaniquement, une certaine qualité de prononciation, mais qui dépend de la possibilité de lire le texte et le sous-texte, et la possibilité de mettre ensemble la compréhension du texte, le potentiel dramatique du texte, une certaine procédure théâtrale qui est liée aux exigences de chanter à 5 ou à 6, qui est différent si on chante à voix seule. Et donc, il y a plusieurs éléments à mettre ensemble. Et au sommet, il y a la justesse. C'est un travail aussi très intéressant. Donc, c'est un travail vraiment tout mêlé, absolument pareil au travail d'un quatuor à cordes pour plusieurs aspects. Il y a la gestion du texte, qui est quelque chose vraiment très intéressant à travailler pendant les répétitions et surtout répéter beaucoup, beaucoup.
Emanuele Sandrini, dans ce travail des Madrigaux de Monteverdi, avez-vous trouvé l'équipe idéale pour pouvoir les interpréter? Et avez-vous trouvé aussi l'équilibre, les couleurs, la bonne diction? Autrement dit, très certainement avec des interprètes italiens qui possèdent cette intelligence du texte innée parce qu'ils sont italiens.
Il y a deux aspects qui sont intéressants. Le travail du madrigal, c'est un travail d'ensemble. La compréhension du texte et la manière de gérer les textes est importante, mais c'est important surtout de construire un résultat d'ensemble. Donc, il faut se retrouver avec des gens qui arrivent à se comprendre, à s'écouter, et qui peuvent arriver à donner une certaine disponibilité pour oublier peut-être des aspects individuels et de mettre la voix à service d'un résultat global. Et l'opéra, c'est tout à fait différent. Je dirigeais pas mal de productions des opéras de Monteverdi en toutes combinaisons possibles. Je trouvais que la plus difficile à gérer, c'est quand il y a des chanteurs italiens et des chanteurs pas italiens. C'est pas une question de qualité, hein, pas une question de qualité, de prononciation ou d'attitude. D'une manière ou l'autre, c'est un peu une question de différence de réaction vis-à-vis du texte. Par contre, ça m'arrivait très souvent de diriger des opéras de Monteverdi avec des castes entièrement pas italiens, et c'était splendide, parce que tous les gens avançaient avec la même vitesse, dans la même manière. Mêler, quelquefois, c'est un peu compliqué, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui pas forcément colle ensemble.
Ces techniques méridionales que vous essayez d'apporter aux chanteurs, les couleurs de voyelles, notamment dans le madrigal, c'est quelque chose d'indispensable.
Disons, on a, je ne sais pas si c'est une chance de parler une langue qui est au niveau sonore est une langue très simple.
Vous avez le soleil inné, Rina de Alexandrine.
Mais l'italien, c'est une langue très pauvre, hein? En termes de voyelles, c'est, moi je répète, nous on a 7 voyelles. Quand vous pensez qu'en anglais il y a 13, Je ne sais pas combien de sons, de voyelles il y a en français. Donc nous, on a une langue effectivement très pauvre, mais c'est pour le nombre réduit de voyelles que la sonorité est très précise. On a deux sons qui sont très clairs, qui peuvent être très, absolument très précis, donc très efficaces d'une manière ou l'autre. Je ne sais pas si c'est l'aspect qui est le plus fascinant de l'italien. Mais de toute façon, je peux garantir que même aux Italiens, ça pose des problèmes énormes. On vient d'enregistrer le troisième livre de Monteverdi. On l'a enregistré le dernier mois de mai. Et je vous dis qu'on a passé des bons quarts d'heure à consulter des dictionnaires pour comprendre si l'accent était clair, ouvert ou fermé. Parce que on vient avec tous nos dialectes, tous nos convictions. Et des fois, on découvre nous-mêmes des choses incroyables. Parce que on se disait, mais jamais j'aurais pu imaginer que c'était, serait plutôt qu'ouvert. Donc, mais pour les Italiens, c'est pas donné.
Les grands entretiens de Rinaldo Alessandrini.
Des chefs à l'origine du renouveau du mouvement baroque comme William Christie ont décrit l'incroyable enthousiasme durant la période de défrichage de ces répertoires. Christie donne l'exemple de Attis, première version, avec cet extraordinaire enthousiasme qui a animé cette production de bout en bout. Quand il l'a refait 30 ans plus tard, il y avait quasiment la même chose, mieux techniquement, mais l'enthousiasme était un tout petit peu moins là. Est-ce que vous diriez la même chose aussi pour le Concerto Italiano?
Disons que pour certains répertoires, et il y a une certaine routine qui est arrivée, notamment Vivaldi. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup ralenti, presque arrêté, d'enregistrer et de jouer du Vivaldi au concert. Et c'est pas le même cas que pour Monteverdi. Monteverdi, il arrive encore à me surprendre.
Parce
vraiment.
Ça résiste.
Oui. Et Bach, évidemment. Et Bach. Mais oui, Vivaldi, c'était un compositeur qui a nous engagé pour plusieurs années. Et je veux pas dire qu'il soit de la musique pas intéressante. Mais
beaucoup moins diversifié.
Beaucoup moins diversifié. Et surtout, c'est une langue d'une manière ou l'autre plus simple, peut-être. Plus immédiat, évidemment. Plus facile. Je ne veux pas dire qu'il soit de la musique sans intérêt ou de la musique banale. Mais déjà, comparer Vivaldi au 17e, ce n'est pas juste.
Tu
Alessandrini, quand vous avez créé votre ensemble, vous vous doutiez que le chemin allait être un petit peu ardu, ne serait-ce que vous ne pouviez pas compter à l'époque sur des subventions d'1 million de lire, par exemple. Vous saviez que c'était hors de question en Italie. C'est quelque chose qui vous attriste aujourd'hui, que l'Italie ne reconnaisse toujours pas le talent et l'œuvre extraordinaire que vous avez faite.
Mais c'est encore plus triste quand je vous dis qu'on est habitué. Et donc, disons, c'est une information qu'on n'arrive pas à métaboliser. C'est-à-dire que le manque de respect de l'Italie vers ses artistes, c'est quelque chose qui n'étonne pas plus, d'une manière ou l'autre. Évidemment, il y a des gens qui me racontent, alors l'ensemble, plutôt que l'autre, l'ensemble qui a reçu des subventions d'eux. Alors oui, à ce moment-là, je me dis, mais dommage. Mais on est habitué que c'est très triste. On a appris à se débrouiller, évidemment. Et franchement, je ne peux pas dire ce qui aurait pu être notre vie avec l'aide d'un État. Mais bon, c'était comme ça.
Il n'empêche que les projets se sont faits, ah, d'une oui. manière ou d'une autre, et que vous avez dirigé à peu
oui.
près partout.
Oui. Je peux dire que j'ai eu la chance de réaliser une partie énorme de mes rêves.
Rêves.
Oui. Exactement.
Notamment en vous intéressant au Primo Seicento d'abord, qui était quelque chose de, a priori, peu, entre guillemets, vendable. Vivaldi, oui, d'accord, mais avant, c'est difficile.
Ouais. Mais on a eu la chance d'avoir le soutien de nos maisons de disques, qui a permis d'enregistrer des répertoires, des programmes absolument fous. Et j'étais très content que c'était un pari gagné, de toute façon. Bon, c'était pas comme enregistrer la cinquième de Beethoven, mais quand même, on a pu démontrer qu'il y a de la vie derrière les grands noms, ouais.
L'année 1991 me semble importante pour l'histoire du Concerto Italiano. C'est l'année où vous allez rencontrer la fondatrice d'Opus 111, Yolanta Scura.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle vous a apporté?
C'était la rencontre avec une réalité qui venait de naître. Moi, à cette époque-là, j'enregistrais déjà pas mal avec Michel Bernstein, mais les contacts entre moi et Yolanta était facilité par Fabio Biondi. Et Fabio l'avait connu Yolanta avec les enregistrements que Yolanta faisait avec Minkowski pour Erato. Donc c'était une chaîne. Et Yolanta était quelqu'un d'immédiatement disponible. Elle aussi, elle était très passionnée par son travail. Bon, c'était un moment complètement différent, donc il y avait un rythme d'enregistrement bien soutenu à l'époque.
Et vous avez fait paraître de nombreux CD chez Opus 111.
Oui, exactement. Oui, disons que pour tout ce qui regarde le travail au disque, J'ai eu la chance de travailler avec des gens qui étaient très engagés pour la découverte, pour la réalisation du disque. C'était quelque chose qui était très stimulant parce qu'il avait une ambiance de travail toujours avec beaucoup d'énergie.
Et diriez-vous que le disque compact a été une carte d'identité importante pour votre ensemble ?
Oui, absolument. C'était la manière dans laquelle on a pu rentrer dans la maison de tout le monde, au moins qui décidait d'acheter nos disques, mais absolument. Mais même aujourd'hui, si vous voulez. Sauf que, évidemment, aujourd'hui, il y a une offre tellement plus variée, tellement plus riche. Hein. Il y a tellement plus d'ensembles, solistes, chanteurs. Donc, aujourd'hui, c'est énorme. Donc, pour tout le monde, aujourd'hui, il est possible d'enregistrer avec le rythme des années 80, 90, on pouvait avoir 10 000 sorties par mois. Parce que je me souviens, nous, on enregistrait entre 4 et 6 CD par an. Et c'était énorme.
Énorme.
Ouais.
Quando Corpus Morietur du Stabat Mater d'Alessandro Scarlatti par la soprano Gemma Bertagnoli, la contralto Sara Mingardo, le concerto italiano et Rinaldo Alessandrini à la direction. Demain, le chef italien nous dira comment il est parti à la redécouverte de Claudio Monteverdi, ce fils de l'humanisme qui a permis l'irruption de la subjectivité en musique et comment il continue de chercher passionnément l'équilibre idéal entre recitar cantando et cantar recitando quand il dirige ses opéras. À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.